www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Sébastien Dossé.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de l'ensemble Correspondance que vous avez fondé en 2008, je crois.
Exactement.
Au-delà de le diriger, vous êtes également organiste, vous êtes claveciniste. Vous sortez à la fin du mois d'août un nouvel album, c'est le troisième album de l'ensemble, consacré à une de vos marottes, on pourrait dire, Charpentier.
Ouais, tout à fait.
L'album, ce sont les Litanies de la Vierge, ce sont des motets composés pour la maison de Guise par Charpentier. Vous allez nous en parler un peu de la spécificité de cette œuvre, peut-être également son choix. Votre ensemble s'est bien focalisé sur la musique française du 17e. Comment est née un peu cette passion dans votre parcours sur cette spécificité musicale et historique?
Alors, je ne sais pas trop comment dire, je ne sais pas dire comment naît une passion. Je pense que c'est pour avoir entendu plein de choses à l'âge de 15-16 ans, quand le cerveau est très mou. Je suis tombé sur pas mal de musique à cette époque-là. J'ai entendu Les Demoiselles de Saint-Cyr, j'ai entendu de la musique d'orgue aussi, que je trouvais géniale, avec Jean Boyer notamment. Tout ça a mûri, parce qu'au final, j'ai fait des études un peu généralistes. Et puis au moment de se dire, après le conservatoire, de se fédérer autour d'un projet, plus que de simplement réunir une équipe, l'idée c'était de se focaliser sur un répertoire. Spontanément j'ai choisi ça parce que c'est la musique sur laquelle j'ai le plus travaillé, celle qui me parle le plus, que je trouve la plus émouvante. Et on s'est fixé sur la musique française du 17e et même plutôt sacrée, pour être vraiment très spécialisé.
Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière les premiers baroqueux, chefs baroqueux on pourrait dire, sont peut-être pas assez plongés dans Charpentier, qui a quand même une œuvre assez impressionnante?
Alors Charpentier, c'est une œuvre absolument colossale.
Il y a
28 tomes de musique et autographes, donc c'est en plus des sources qui sont vraiment de première main. C'est de la musique très égale, dans le sens tout est assez génial. Donc effectivement, il y a un très très gros répertoire là. De dire que les gens qui sont passés avant nous s'y sont pas assez penchés, non, c'est faux, parce que évidemment il y a eu Christy, il y a eu
plein de gens qui ont vachement
travaillé là-dessus.
Par rapport
après,
à la valeur.
Moi, je pense que un ensemble baroque aujourd'hui, ça peut pas être la même chose qu'un ensemble baroque il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il fallait en quelque sorte prouver que la musique baroque avait une valeur au moins identique au grand répertoire qui était celui du 19e siècle. Donc la manière logique de s'y prendre, et c'est ce qu'ont fait les gens qui étaient là il y a 30 ans, c'est de faire entendre tout dans ce répertoire, tout ce qu'il y a de meilleur, donc les plus grands chefs-d'œuvre, on va dire. Et pour ça, passer alternativement de Bach à Purcell, à Charpentier, etc. Donc tout ce travail-là, je pense qu'il a été admirablement fait. Et aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tout le monde que la musique du 17e siècle vaut autant. Il n'y a pas de hiérarchie avec celle du 19e ou du 20e. C'est un répertoire fantastique qu'il faut continuer d'entretenir. Donc tout ce travail, il a été fait. Maintenant, aujourd'hui...
Vous arrivez pour la deuxième partie, finalement.
Nous, on arrive en deuxième partie. Et je pense que là où on peut, nous, avoir un rôle différent et complémentaire, c'est que nous, on va peut-être, dans un premier temps, en tout cas, on va s'attacher à un répertoire précis. Et au lieu d'en montrer simplement les plus grands chefs-d'œuvre, parce que maintenant, on connaît le Tédéum de Charpentier, la Messe de minuit, etc., c'est des œuvres qui sont très repérées. Et se dire qu'on va avoir peut-être une démarche plus verticale et essayer de creuser un peu et d'aller au fond des choses et de se dire que chez Charpentier, sur les 500 numéros du catalogue, c'est pas juste qu'on n'en connaisse que 10, parce que derrière ça, il y en a 490, allez, 400, on va dire, qui sont vraiment, qui valent vraiment le coup. Donc, je pense que même sur des compositeurs comme Charpentier, il reste un travail assez colossal à faire. Et deuxième chose, toute la génération des compositeurs avant Charpentier, bah là, pour le coup, effectivement, c'est un répertoire qui a été peu exploré. Donc, le répertoire de Moulinier, d'Antoine Boisset, de Formé, de Guillaume Bousignac, c'est les grands compositeurs français voilà, jusqu'aux années 1660. Et effectivement, eux, ils ont un petit déficit de notoriété par rapport à la qualité de la musique.
Quand je disais effectivement pas assez peut-être visité par les anciens, c'était plus finalement par rapport à la quantité, à la largeur du catalogue.
Ouais,
du
tout catalogue à fait.
Des œuvres. Alors, en creusant verticalement, pour reprendre votre expression, donc on tombe sur ces litanies de la Vierge. Alors parlez-nous un petit peu de ces motets, dans quel contexte ils sont nés et comment vous les voyez dans l'intégralité de l'œuvre de Charpentier.
Alors c'est un peu une parenthèse ces motets parce que de la même manière que Charpentier est une parenthèse dans le grand siècle, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une carrière tout à fait standard, qui n'a pas travaillé à la cour, donc qui n'a pas eu à subir tous les canons formels, tout le cérémonial qu'imposerait un contexte comme celui de la cour. Donc ces motets-là, ils ont été composés pour l'hôtel de Guise. Donc, c'était une bâtisse dans le Marais qui existe toujours. Elle a été vraiment retransformée, mais il reste toujours la porte principale, rue des Archives à Paris. Et dans cet hôtel de Guise vit Marie de Guise, la dernière descendante de la famille, une femme forte comme on dit à l'époque, c'est-à-dire une très forte personnalité, très très attachée à la religion, mais aussi à l'art, parce qu'elle a vécu toute sa jeunesse en Italie, donc elle a connu les grands peintres, les grands musiciens de ce temps-là. Et à son retour à Paris, retour d'exil, elle continue à être passionnée par l'art et elle entretient dans son hôtel de la rue du Chaume, elle entretient toute une domesticité, parmi lesquelles des musiciens qui ont à la fois une charge dans la maison, mais qui sont en même temps chanteurs, clavecinistes, violistes. Et puis elle a Charpentier, qu'elle engage à son retour d'Italie comme compositeur. Donc en fait, ces motets, ils ont été composés par Charpentier pour l'équipe des musiciens qui vivaient à l'hôtel de Guise à cette époque-là, dans les années 1680. Donc des musiciens dont on dit qu'ils avaient un très très bon niveau. Ils étaient assez jeunes, ils avaient entre 20 et 30 ans. Charpentier avait à peu près 40 ans à cette époque-là. Donc lui compose vraiment pour les gens qui sont là. Donc on n'est pas sur une forme de petit motet standard avec deux sopranes, une basse continue, ou de grands motets avec des grands effectifs pléthoriques. On est sur un effectif très clair, parce que lui le note très clairement dans les manuscrits, de 8 chanteurs et 8 instrumentistes. Donc c'est vraiment un genre un peu intermédiaire entre le petit et le grand motet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut suivre chaque chanteur, chaque interprète au fil de la musique. C'est-à-dire qu'on voit que telle partie seule est chantée par Mademoiselle de Grand Maison et qu'on va retrouver dans un autre motet chantant dans une texture un peu différente. En fait, on peut, c'est un peu comme un roman, ces motets, on arrive à suivre les personnages au fil des œuvres.
qui vous fait décider d'enregistrer telle ou telle pièce? La question, on pourrait savoir un peu quelle valeur vous donnez à l'enregistrement. Pas juste des œuvres que vous dirigez en concert, mais vraiment quelque chose qui va rester. C'est le troisième disque de votre ensemble. Qu'est-ce qui vous fait décider de prendre cette décision?
Il y a plusieurs choses. Je pense que la première raison, c'est de fixer un moment d'émotion très forte. C'est-à-dire que ces œuvres-là génèrent une émotion pour nous, interprètes. Et voilà, on a l'idée d'essayer de fixer ça pour la transmettre autrement que par le concert. La deuxième chose, c'est qu'un enregistrement nous permet toujours d'aller plus loin dans le travail. Alors nous, on travaille beaucoup en général, surtout en amont des productions, en amont d'un nouveau programme. On va travailler 5-6 jours, etc. Et c'est ensuite des programmes qu'on reprend souvent sur 2 ou 3 ans. Donc c'est la musique qu'on fréquente sur la longueur, sur 3 ans. Mais ce qu'on va réussir à faire pendant un enregistrement, c'est quelque chose de vraiment très différent. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a une sorte d'alchimie pendant un enregistrement où on va soigner des micro-détails on pourrait laisser filer pendant un concert, par exemple. Inversement, pendant un concert, on va privilégier d'autres choses qu'on aura peut-être moins à l'enregistrement et qu'il faut essayer de retrouver quand même. Enfin, moi, je trouve que dans notre développement, les enregistrements, ça a toujours été un truc qui nous fait avancer.
Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous-même, sur votre direction, sur votre approche de l'enregistrement avec ce troisième album par rapport aux deux précédents?
Alors c'était très différent parce que les deux précédents, on était 12 musiciens, là on était 16, et c'est pas grand chose en nombre de musiciens, mais c'est tout de suite un basculement en termes d'effectifs. Là on était sur auparavant 3-4 chanteurs, là il y avait 8 chanteurs. Ça change complètement la perception qu'on va avoir et sur le travail de concert et sur le travail de disque. Donc voilà, ce qui m'a semblé un palier dans notre développement avec cet enregistrement-là, c'est le travail sur l'homogénéité des chanteurs. De savoir comment, en son réel, on peut trouver ça au maximum pour que ça transparaisse au disque et que les gens qui écoutent ce disque-là se disent: tiens, ça c'est correspondance et c'est vraiment leur son. Donc c'est toujours je sais pas si je serai clair, hein.
Il
faudra couper si je dis mais c'est la différence entre le son réel et ce qui va vraiment s'entendre au casque ensuite avec l'ingénieur du son. Et là on avait un très bon ingénieur du son.
Vous pouvez donner son nom.
C'est Alban Moreau. Alban.
Vous avez expliqué en début d'entretien un peu l'importance et la raison de se spécialiser, voire se sur-spécialiser. Stylistiquement, vous vivez presque avec Charpentier depuis pas mal d'années maintenant.
Ouais.
Est-ce que ça, on imagine bien évidemment les avantages de cette spécialisation que vous avez évoquée et l'intérêt. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un inconvénient par rapport pour les autres répertoires, quand justement on passe une grande partie de son temps à vivre musicalement avec un seul compositeur, même si l'ampleur de l'œuvre de Charpentier montre que stylistiquement il brasse.
Je pense que l'inconvénient, vous le dites un petit peu, c'est que si on se spécialise sur un domaine, c'est pour être vraiment le plus compétent, le plus intéressant possible. Et par écho, sur la musique allemande de la fin du 18e, par exemple, si je voulais vraiment faire cette musique-là, ça me demanderait au moins le même travail. Donc la spécialisation, elle fait que dans les points positifs, comme vous dites, on va essayer d'être les meilleurs, hein, sur un répertoire donné, d'avoir un son qui est très identifié et très identifiable. Ça veut dire qu'on va, ce son qu'on va développer, on pourra aussi s'en servir. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un jour on va faire du Purcell et on viendra avec une empreinte qui sera une empreinte française. Je pense que c'est intéressant spécifiquement pour la musique de Purcell, par exemple, puisque Purcell, il y a des affinités très fortes avec la France et des proximités importantes avec la musique de Charpentier. Donc voilà, ça peut être aussi, c'est un peu comme un canal, mais ça nous permet aussi de prendre des destinations et d'arriver avec des choses nouvelles à dire sur d'autres répertoires.
Ma question était plus effectivement quand vous êtes confronté concrètement à d'autres répertoires, est-ce qu'effectivement la présence, enfin l'omniprésence de Charpentier en vous, finalement, parfois peut avoir des aspects négatifs. C'était plus sous cet aspect, finalement, sous cet aspect-là.
Alors ça nous arrive pas beaucoup en fait. Mmh. On fait surtout de la musique française. Mmh. Jusqu'à maintenant, quand on a touché un petit peu de musique italienne, c'était pour essayer de retrouver ce que Charpentier a entendu quand il était à Rome. Pour l'instant, on n'est pas trop sorti de ce canal en fait, donc je peux pas encore
vous
répondre.
Je vous le redirai la prochaine fois. Pour en parler. Donc cet ensemble Correspondance donc est né il y a un peu plus de à peu près 5 ans je crois.
Ouais.
La raison c'est quoi? C'est une bande de potes de conservatoire finalement avec qui vous aviez envie d'approfondir ce répertoire et ses passions communes.
Bah c'est ça parce que effectivement la naissance d'un projet c'est d'abord l'envie de fédérer. Des gens dont on soupçonne que tous feraient quelque chose de chouette ensemble. C'est l'idée de se dire que pour aller plus loin que le conservatoire dont on sort musicalement, je veux dire, eh ben, il faut que l'équipe soit fixe, pas fixe, en tout cas très stable. Et c'est l'idée de se dire qu'on va faire un bout de chemin ensemble et que tout le monde y croit parce qu'aujourd'hui, c'est...
c'est difficile.
C'est super dur. C'est super dur. Mais voilà, en même temps, c'est super dur. Et puis, ça fait 5 ans qu'on traverse le désert et qu'il en sort quand même des choses, des concerts et puis des disques. Et voilà, même si c'est dur, je pense qu'en travaillant beaucoup et en étant avec de la volonté, voilà, c'est encore possible.
Comment vous abordez la facette plus musicologue, voire Indiana Jones, Sherlock Holmes de votre métier, notamment dans tout ce qui est recherche, etc.
Ah bah moi j'adore ça. J'adore faire ça parce que c'est aussi ma formation. Je pense que c'est des histoires de parcours, mais c'est vrai que la première fois que j'ai commencé à mettre le doigt dans la recherche, je travaillais sur une œuvre de Charpentier. Et c'était une petite pastorale que Charpentier a dû composer très vite. Et il a indiqué à plein d'endroits sur le manuscrit, allez voir dans mon grand livre G pour tel air.
Un vrai jeu de piste, quoi.
Voilà, j'ai pas le temps de le copier, allez voir dans ce livre-là. Là, vous prendrez l'air de machin du malade imaginaire, etc. Et à la fin, il disait, vous prendrez tel air. Et ça, bon, voilà, tous les musicologues qui avaient travaillé dessus avaient dit, bon, non, ça s'est perdu, etc. Bon, je travaille sur ça. Et en cherchant comme un malade, j'ai fini par trouver cet air de Charpentier. Donc j'ai commencé à mettre le doigt dans la recherche en trouvant un air inédit de Charpentier. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est super motivant et qui montre que eh ben voilà, même au XXIe siècle, après des décennies de musicologie très compétente, il y a encore des choses à trouver, même sur les plus grands compositeurs, d'une part. Et puis d'autre part, ben voilà, sur toute la génération avant Charpentier, il y a énormément de choses.
Vous avez parlé d'Antoine Boesset, vous avez affaire, déjà consacré
voilà.
Déjà.
Antoine Boesset, c'était un projet qui a duré 2 ans.
C'est encore plus excitant quand justement, là on est encore dans le plus obscur et le moins connu, finalement.
Bah,
on a
oui.
L'impression d'être encore plus des
freakers. C'est excitant à partir du moment où la musique l'est.
Évidemment.
Mais pour Boesset, par exemple, moi j'ai trouvé que la musique était un contrepoint absolument génial, hyper simple et en même temps hyper expressif, qui révèle un monde sonore qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on dit musique baroque. C'était quelque chose en plus géographiquement qui est là à Paris, sur la butte Montmartre en 1630. Enfin, ça génère tout un monde imaginaire qui est assez fascinant. Là, on va travailler, j'ai travaillé là pendant 1 an sur un projet qui va s'appeler le Concert Royal de la Nuit. Qu'on va faire pour Ambronay en septembre, et en partant d'une œuvre complètement emblématique des ballets de cour, c'est la fin de la Fronde, c'est un grand ballet que monte Mazarin pour le jeune roi Louis XIV pour asseoir son pouvoir. C'est une œuvre complètement métaphorique. Pendant 50 ans après, on en a parlé avec des commentaires très élogieux sur les machines, sur la musique, sur la qualité de la danse, les décors, etc. Et voilà, moi j'ai retracé un petit peu toute cette piste-là pour en faire un spectacle qui sera plus chorégraphique, mais seulement musical. Mais c'est génial, c'est passionnant, quoi. Et j'ai fait, du coup, c'est une sorte de pastiche, si on veut, maintenant, à partir de ce ballet de la nuit, et puis de tout l'univers musical qu'on pouvait entendre dans le Paris des années 1650, donc avec aussi la musique des Italiens, Rossi, Cavalli. Voilà, moi, j'adore ça.
On vous sent passionné et habité, presque, on pourrait dire logiquement. C'est quoi vos premiers émois musicaux de petit enfant?
Je pense que c'est l'œuvre pour orgue de Bach.
C'est précis.
Ben en fait, j'ai été très très tôt à la maîtrise, donc j'ai chanté beaucoup. Donc j'ai entendu très vite la musique d'orgue notamment. Mais sinon, j'ai chanté Palestrina quand j'étais petit, je me souviens très bien, les chorales de Bach en boucle. C'était.
C'est la voix finalement qui vous a.
C'est l'harmonie en fait. Plus que le, j'avais pas trop de plaisir à chanter quand j'étais petit. En revanche, j'adorais comprendre comment on pouvait tirer de sons superposés autant d'harmonie. Et ça, j'ai gardé cette passion-là.
Le choix de l'instrument, orgue, clavecin, est venu rapidement, s'est imposé à vous. Comment ça s'est passé ?
Il s'est imposé quand j'ai entendu à la radio de la musique baroque. Du coup, j'ai arrêté, j'ai fait de la flûte, j'ai fait de la guitare.
Vous avez tout testé avant ?
J'ai testé pas mal de trucs. Et puis finalement, je me suis mis vite à l'orgue parce que à Rennes, il n'y avait pas de classe de clavecin en Bretagne à cette époque-là. Et j'ai fait vite du clavecin ensuite à Angers. Mais voilà, ça c'était vers 16, 17, 18 ans en fait.
La direction, c'est venu à quel moment dans votre esprit ?
Alors, direction, c'est pas forcément le bon mot, parce que quand on est chef d'ensemble, c'est...
Même direction musicale, on pourrait dire.
Direction musicale. C'est simplement, je pense, l'idée qu'à un moment, il peut y avoir une frustration entre ces idées et la possibilité de les mettre en œuvre. Et puis voilà, au bout d'un moment, s'il y a trop de frustration, il faut se dire qu'il faut lutter contre la frustration. Et du coup, c'est venu à ce moment-là, en fait.
Vous êtes originaire de Rennes ou de la région.
Ouais.
Après, vous êtes parti à Paris, puis il y a eu Lyon.
Ouais.
Comment vous voyez rétrospectivement toutes ces années de formation conservatoire? Quels souvenirs vous en gardez, même si c'est encore assez proche, pas trop 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 lointain?
Ouais, moi je garde un très bon souvenir de ça, peut-être le seul bémol, c'est de se dire que ça a été toujours dur de trouver l'enseignement. C'est-à-dire que pour faire du clavecin en Bretagne, à cette époque-là, dans les années 2000. c'était super dur, donc il fallait aller loin pour ça. Pour trouver un spécialiste de basse continue, c'était compliqué aussi. Donc il a toujours fallu aller chercher les choses sans qu'elles soient là comme une option à cocher au conservatoire. Donc voilà, il y a peut-être des choses que j'aurais pu apprendre en plus. Mais sinon, moi, je garde un super souvenir de ça. Le conservatoire de Lyon, j'en garde un très bon souvenir aussi, avec des profs voilà, qui sont là, qui sont engagés, Françoise Langer, Marine Müller, Yves Reichsteiner, tous ces gens-là. C'était super.
Finalement, cet engagement en musique, ce parcours, il semble d'être assez fluide. C'était une évidence pour vous quand vous étiez tout petit que, de toute façon, votre vie professionnelle allait être musicale ?
Non, pas du tout. Je pense que ça s'est décidé presque par hasard.
Un matin,
j'aurais pu faire une prépa lettres ou un truc comme ça. Puis finalement, je suis allé au conservatoire. Et puis finalement, il y a quand même l'idée d'un fil qui s'enroule. Et oui, au bout d'un moment, on est parti. Et il faut aller dans ce sens-là. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer.
Non, mais on est parti. Et quand on est parti, justement, est-ce qu'il y a un autre moment où on se rend compte que là, vraiment, on est sur une grande route? Et pas juste, c'est pas juste un hasard, on est là parce qu'on a vu de la lumière et on se sent peut-être pas habité ou missionné par quelque chose, mais est-ce qu'on sent vraiment que tout à coup, de par une rencontre, de par une œuvre, de par quelque chose, qu'on a passé un cap ?
Je sais pas dire. En fait, si j'ai dit que j'y étais venu par hasard, c'est pas bien dit, en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si je dis ça s'est fait comme ça, c'est qu'en réalité, le fil était déjà enroulé, en fait. Ensuite, je sais pas trop vous dire là. J'attends de voir. Ça, c'est une question qui auquel
pour le 30e anniversaire de pour le 30e anniversaire de l'ensemble. Comment vous avancez justement par rapport au répertoire? Vous avez déjà, j'imagine, posé des balises par rapport aux œuvres que vous voulez aborder avec l'ensemble dans les mois et les années à venir?
Oui. Bah, je pense qu'on va pas tellement s'éloigner de.
Oui, j'imagine que
de Schoenberg notre canal.
Schoenberg n'est pas prévu au programme de l'année prochaine.
Pas cette année, peut-être celle d'après. On va continuer à travailler sur Charpentier. Là, cet été, on monte un nouveau programme autour de la dernière histoire sacrée qui n'a jamais été jouée, la peste de Milan. Donc, on va créer là, en juillet au Festival Musique et Mémoire. On va préparer ce projet avec Ambronay sur le concert de la nuit, donc c'est voilà, plutôt l'univers de 1650 et pour la première fois un programme de musique profane avec un petit peu de musique d'opéra. On va travailler cette année aussi, et j'aimerais qu'on puisse poursuivre vraiment beaucoup ce travail-là sur la musique sacrée d'Étienne Moulinier, immense compositeur de ce milieu du XVIIe siècle français, qui a laissé notamment un gros recueil de musique sacrée.
Beaucoup de choses. Ouf. Opéra, vous avez dit justement, vous avez publié, je crois, des opéras de Charpentier.
Oui, les petits opéras de Charpentier, musique formidable. C'est des.
Avec William Christie, vous avez travaillé sur ce.
Alors pour l'édition, on a discuté un petit peu. En fait, c'était une époque où. Où moi je réfléchissais beaucoup sur la manière dont on diffuse la musique ancienne, et notamment la musique du XVIIe siècle, donc comment on l'édite, notamment. Et voilà, moi je trouve que je ne suis pas du tout pour cette logique de se mettre au niveau le plus bas possible pour soi-disant transmettre le plus largement. Et pour la musique baroque aujourd'hui, l'enseignement a beaucoup évolué. Il y a de plus en plus de musiciens, il y a de plus en plus de publics connaisseurs. Donc moi, mon idée, c'était de se dire, on a besoin d'une édition moderne, mais on n'est pas obligé de la traduire pour la rendre plus accessible, soi-disant plus accessible. Donc il y a la question des clés, il y a la question de l'orthographe, il y a la question de mille choses qui sont, notamment dans Charpentier, on a des manuscrits de sa main, qui sont des signes qui peuvent avoir un sens, que l'édition moderne spontanément transformerait. Donc voilà, toute cette réflexion-là, elle a abouti sur ces éditions de petits opéras aux éditions des Abbesses, et à de longues discussions avec Fanny Vernaz et aussi avec Christy, parce que je pense qu'il est intéressé par ces questions-là et qu'il a des choses à dire.
Vous avez parlé un peu de ces premiers baroqueux, de ces générations, on va dire, d'avant vous. Quel regard vous portez sur tous ces grands noms? Quels sont ceux, peut-être, qui vous ont le plus marqué?
Bah, je pense que Christie est un peu dans le triumvirat.
Un
tiercé gagnant. Parce que le travail sur la musique française et cette passion pour la musique française, c'est lui qui l'a eu vraiment, quoi, avec la musique de Charpentier. Et puis aussi, là, on parlait de Moulinier, mais il est tout premier à avoir joué cette musique-là. Et qui lui est resté fidèle. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de lassitude en se disant on fait au début le baroque français et ensuite Mahler. Donc il y a lui, il y a Jordi Savall, parce que je trouve que son approche de la musique française est très différente et alors moins fidèle, parce que c'est quelque chose qui fait de temps en temps, mais voilà, il y a la patte, enfin il y a l'identité de cet artiste-là qui va aussi très bien avec la musique française et qui donne lieu à des enregistrements qui sont vraiment, je n'aime pas dire magique, mais c'est quand même l'idée, quoi. Voilà.
Et l'organiste, le claveciniste que vous êtes
Eh ben, alors, mais j'écoute pas trop d'orgue ni de clavecin, en fait. c'est fini.
Vous en avez écouté, donc.
J'en ai écouté beaucoup. Il y a un organiste que moi je vénère, c'est Jean Boyer. Je pense qu'il faut écouter pour se rendre compte, mais c'est un organiste fantastique. Tout ce qu'il a fait en musique française, Grigny, Clérambeau, c'est somptueux. Le son est incroyable. J'adore complètement, sans réserve.
Quand vous ne faites pas de la musique, vous en écoutez celle des autres, au disque, au concert?
Ouais, alors au concert, je vais pas autant que je voudrais, mais ça arrive quand même pas mal. Et puis j'écoute encore pas mal de musique enregistrée, ouais.
Et est-ce que c'est que de la musique française du 17e ou il vous arrive de sortir...
Parfois, je vais vers le 18e siècle, seulement de temps en temps.
Pas de musique, contemporaine ou hors classique ou autre?
Si, bien sûr. J'écoute pas mal de jazz, je suis pas très connaisseur en variété, en choses comme ça. Il y a des chanteurs français que j'adore Juliette. J'essaie de m'ouvrir un petit peu les oreilles en dehors de tout ça.
Bien. Donc on vous réinvitera pour le 30e anniversaire de l'ensemble Correspondance. Je rappelle donc que Litanie de la Vierge paraît chez Harmonia Mundi à la fin du mois d'août. Merci Sébastien Dosset.
Merci.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.